Poursuivons avec Colossiens chapitre 3. Juste peut-être un petit rappel dans quel contexte on est dans l'église de Colosse. Dans l'église de Colosse, certains affirmaient que croire en Jésus ne suffisait pas. Il fallait croire en Jésus, mais il fallait rajouter quelque chose. Et ils disaient en quelque sorte, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi vivre des expériences spirituelles particulières, avoir des visions, suivre certaines règles alimentaires. Ils disaient, voilà, il fallait pratiquer certains jeûnes et de façon rigoureuse, respecter certains rites religieux spéciaux pour véritablement être proche de Dieu. Il y en a qui disaient cela, et puis d'autres prétendaient posséder aussi des révélations et des connaissances que les simples croyants n'avaient pas. Et au fond, peut-être un désir de faire bien, ils étaient en train de mettre en place une forme de catégorisation des chrétiens. Ils créaient deux catégories de chrétiens. Ceux qui étaient ordinaires et ceux qui, soi-disant, étaient super spirituels. Ça, c'est le contexte de l'église de Colosse. Et tout le débat qu'il y a dans, comment dire, l'épître dans le Colossien, c'est que Paul va répondre avec force en disant, en Jésus, vous avez tout pleinement. Chapitre 2, le verset 10. En Jésus, vous avez tout pleinement. Jésus est pleinement homme, Jésus est pleinement Dieu, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur de toutes choses, et en lui se trouve tout ce dont nous avons besoin, se trouve tout ce dont tu as besoin, se trouve tout ce dont j'ai besoin pour vivre la vie chrétienne en Christ, parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous ne grandissons pas en ajoutant quelque chose à Christ, mais en s'attachant davantage. Et c'est pourquoi, dans cette deuxième partie du chapitre 3 que nous allons lire en quelques instants, Paul nous montre très concrètement ce qui signifie être enraciné en Christ. Et il va répondre à trois questions simples. Et j'aimerais te dire que tu as besoin de répondre à ces trois questions pour pouvoir s'enraciner chaque jour en Christ. Et voyez bien qu'il s'agit ici, non pas d'une croissance accélérée, mais bien d'une croissance lente, mais solide et profonde. Les trois questions, c'est qui suis-je en Christ? Savoir quelle est mon identité en Christ. L'autre question, c'est qui suis-je avec les autres? En gros, la nécessité d'apprendre de mes relations avec les autres. Et troisième question, qui suis-je au quotidien? C'est-à-dire, laisser la parole de Dieu me transformer. Alors, je répète les trois questions. Qui suis-je en Christ? Qui suis-je avec les autres? Et qui suis-je au quotidien? Voilà le chemin. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble Colossiens chapitre 3, versets 11 à 17? Colossiens chapitre 3, versets 11 à 17. Il n'y a ici ni grec, ni juif. Ni un circoncis, ni circoncis. Ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Est-ce qu'on peut le répéter avec moi? Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de compassion, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de la charité de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Amen. Seigneur, éclaire-nous par ta parole, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions davantage te ressembler au nom de Jésus.
Amen.
Alors, suite à ce que nous avons pu partager la semaine dernière, Paul poursuit donc au verset 11, et il affirme que la réalité de l'homme ici, la réalité de l'homme nouveau en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alors, rappelez-vous un petit peu les faux enseignants qui cherchaient à classer les croyants entre les plus spirituels et les moins spirituels. Aujourd'hui, dans ce monde, on a tendance aussi à créer des catégories, chers frères et sœurs. Dans l'Église aussi? Oui, oui, c'est vrai. Et on se définit par notre origine, n'est-ce pas? Est-ce que tu es blanc, tu es noir, tu es, asiatique, tu es indien et tout ça? Et puis, derrière tout ça, il y a des a priori qui n'ont rien de valable, bien souvent, n'est-ce pas? Alors c'est ça, c'est ce que dit Paul, ni juif, ni grec. Les catégories de notre religion, l'apôtre Paul va dire, ni circoncis, ni incirconcis. Est-ce que tu es baptiste? Est-ce que tu es pentecôtiste? Est-ce que tu es presbytérien? Enfin bref, est-ce que... Exactement. Et on te catégorise. Notre culture, n'est-ce pas? L'apôtre Paul va dire, ni barbare, ni scythe. Et de savoir de quelle culture on est aussi, on met une case. Notre statut social, l'apôtre Paul dira, ni esclave, ni libre. Notre niveau d'études, n'est-ce pas? Et aussi notre réussite. Mais j'aimerais te dire qu'en Christ, ces distinctions ne sont plus ce qui nous définit. Alléluia! Paul déclare, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, mais Christ est tout en tous. Alors ça ne signifie pas que nos différences disparaissent, parce que, comment dire, le Seigneur aime ces différences, et je crois qu'il sait en faire des farandoles. Mais ce ne sont plus nos différences qui nous séparent. Alléluia! Notre identité première, ce n'est plus ce que nous étions, vous l'avez ici, notre différence, notre identité première, ce n'est plus ce que nous étions, mais à qui nous appartenons. Parce que Christ devient le centre de notre vie. Notre relation avec lui est vraiment ce qui nous importe le plus. Et j'aimerais te dire que s'enraciner en Christ, c'est commencer par savoir qui tu es en Christ. Et quand ces faux enseignants-là essayaient de faire des catégorisations, du moins spirituel au plus spirituel, l'apôtre Paul va simplement leur dire, au pied de la croix, nous sommes tous égaux. Et nous avons été créés par Dieu. Et nous avons été créés pour Dieu. Et même nous avons été recréés en Christ. Je vais te dire que tant que tu cherches ton identité dans ton travail, dans ta famille, dans ton origine, dans ta religion, dans tes réussites, dans ton statut social, dans ta culture, dans le regard peut-être des autres, tu seras toujours déçu. Il est temps pour toi d'affectionner les choses d'en haut, comme le dit l'apôtre Paul dans le début du chapitre 3. C'est en Christ que nous découvrons réellement qui nous sommes. Je le répète, s'enraciner en Christ, c'est commencer par savoir qui tu es en Christ. Et Dieu, il a pensé à nous avant notre naissance, quelles que soient les circonstances de ta naissance, quel que soit le lieu où tu es né, quelles que soient les difficultés que tu as dû affronter, le Seigneur a pensé à toi avant ta naissance. Une manière de te dire qu'il avait un projet sur ta vie. Une manière de te dire qu'il avait une intention sur ta vie. Il avait un appel sur ta vie. Une autre manière de te dire que ton origine, ta valeur, ta raison de vivre, ta destinée se trouve en Christ. Et je vais te dire que tu n'as pas à te poser la question quoi faire de ta vie. Pas la peine de te poser la question, mais peste tête-toi les questions là. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quand tu es arrivé au Seigneur, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois plutôt te poser la question, mais pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici là sur terre. Voyez ici, il s'agit de ne plus se centrer sur toi et sur tes aspirations et surtout sur tes ambitions personnelles. Il s'agit, et c'est beaucoup plus simple, alléluia, de se concentrer sur celui qui t'a créé. Parce que tu n'es pas là par hasard. Parce que Dieu a un projet sur ta vie. Et je le dis, pas simplement pour ceux qui sont dans la fleur de la jeunesse, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont déjà un certain âge. Peut-être que le projet de Dieu va démarrer pour toi maintenant. Alléluia! Et plus nous nous attachons à Christ, plus nous découvrons notre véritable identité. En Christ, je suis accepté. En Christ, je suis en sécurité. En Christ, j'ai de la valeur. Et quand on comprend ça, on comprend le sens profond de notre existence. Et on affronte les difficultés, les oppositions avec une autre mentalité. Alléluia. Et tout cela, chers frères et sœurs, ça prend le temps de se former en nous. Comme le banquier. Amen. Et parfois, on a besoin de retourner sur certaines vérités pour nous laisser saisir par lui. Il faut laisser le temps à l'arbre de notre vie, le temps de se développer dans cette nouvelle identité que Christ nous a acquise à la croix. Amen. Paul poursuit au verset 12 et il dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous vous rappelez la semaine dernière qu'on avait fait toute une liste, n'est-ce pas, des péchés, avec le début de Colossiens 3. Et on avait vu ensemble comment déraciner ce mal. On n'y reviendra pas. Mais si on déracine, c'est pour plonger nos racines et pour développer du bon fruit, n'est-ce pas? Ok? Alors, rappelons-nous aussi que Paul combat au moins deux fausses idées qui touchent les chrétiens colosses. Tout d'abord, il y a une sorte d'ésotérisme qui est là. Il y a une recherche à tout prix de vision pour se donner l'illusion d'être proche de Dieu. Et puis d'autres, comme je l'ai dit en introduction, comment dire, sont enchaînés par des jeunes avec un certain ascétisme. Vous savez ce que c'est que l'ascétisme ? C'est se priver, se priver, se priver, se priver et croire qu'en se privant, ben, on va s'approcher de Dieu. Qui les poussait donc à ne pas manger pour se sentir plus spirituel. Alors écoutez-moi, ce ne sont ni nos visions, ni les visions, ni les jeûnes, ni les expériences spirituelles, ni les sacrifices personnels qui font de nous des chrétiens matures en eux-mêmes. Même si toutes ces choses, elles ont leur place, elles ont leur importance, mais elles ne sont pas la source de la croissance spirituelle. Elles sont des moyens, mais elles ne sont pas la source. Des moyens que Dieu a mis à notre disposition, mais elles ne sont pas la source. Et la religion met sa confiance dans les pratiques. Mais la foi, elle, met sa confiance dans une personne, Jésus-Christ. Et vous voyez la différence ? La religion cherche toujours à atteindre Dieu par ce que l'on fait, par tout ce qu'on peut faire. Mais la foi, elle, elle reçoit ce que Dieu a dit, ce que Jésus a déjà accompli pour nous à la croix. Alléluia. Une manière de dire que la vraie spiritualité ne consiste pas à accumuler des expériences extraordinaires ou chercher une sorte de performance religieuse. La vraie spiritualité, la vraie intimité avec Dieu consiste à être uni à Christ, enraciné en Christ et transformé par Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Christ en est tout dans tous. » Christ est tout et en tous. Ce que je fais pour Dieu, comment dire, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui me fait grandir. C'est ce que Christ fait en moi lorsque je suis véritablement attaché à lui. Et donc, Paul est en train de dire que, oh, attention là. Attention à tous vos gestes spirituels, parce que tout cela, en fait, ça vous amène à l'orgueil. Tout cela vous amène finalement à vous centrer sur vous-même. Parce que être spirituel, c'est autre chose que ces gestes spirituels pour pouvoir vous auto-satisfaire. Parce qu'un vrai disciple de Jésus, ce n'est pas se fondre ou se perdre dans une divinité, mais c'est être saint, c'est être irréprochable, c'est savoir faire des choix radicaux, et cela devant Dieu, et tout cela en s'attachant à Jésus. En quelque part, on peut dire qu'on est conscient que nous sommes citoyens du ciel, mais nous vivons ici-bas sur terre, et, comment dire, 24 heures sur 24, nous n'oublions pas que nous sommes citoyens du ciel. Mais nous vivons ici-bas. Tout ça, pourquoi je vous dis ça, chers frères et sœurs? Parce que l'apôtre Paul va donner des exemples concrets pour dire arrêtez à la hauteur de ta là. Descends un petit coin. Descends un petit coin. Et révélez qui m'a noyé. Ok? Et ça implique en quelque part un changement de comportement, d'attitude avec les autres. Tout ce que Christ fait en moi lorsque je demeure attaché à lui. Et là, dans le verset, vous voyez bien qu'il y a toutes sortes de qualités, la compassion, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon. En fait, Paul nous rappelle ici une vérité qui est oubliée. Paul nous dit que la véritable spiritualité, la véritable intimité avec Dieu se voit d'abord dans nos relations. Alléluia. Amen. Ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu ne se mesure pas tant, comment dire, à ce qui se passe lorsque tu es tout seul avec Dieu dans l'intimité, dans la prière, et c'est très bien, mais ça se mesure à ce qui se passe quand tu es en relation avec les autres. Qu'est-ce que tu dégages? C'est là, Yotawa, qui m'ennuyait. Parce que la vie chrétienne est faite pour être vécue à plusieurs. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue dans son coin. Si tu as rencontré le Seigneur de façon intime et personnelle, c'est pour que tu puisses rayonner d'une manière ou d'une autre. Et que tu exprimes profondément ce que Dieu a fait en toi. Dieu nous a-t-il pas appelé à former un seul corps, toujours dans le sien, le verset 15. Être enraciné en Christ, c'est donc apprendre à vivre ensemble, chers frères et sœurs. Qui suis-je avec les autres? Qui suis-je avec les autres? Dans l'église, au travail, en famille, en couple. Vous savez qu'on peut passer incognito dans une foule, hein? Et il y en a qui sont spécialistes de ça, n'est-ce pas? Nous pouvons adorer le Seigneur au sein d'une foule, mais sans, comment dire, vraiment être vrai avec les autres. Et on ne peut pas vraiment se connaître, se confier et grandir ensemble au milieu d'une foule. Lorsqu'un groupe grandit trop, c'est ce qui se passe. Il devient plus difficile pour chacun de trouver sa voie, de trouver sa place. Une manière de dire, confère, chers frères et sœurs, il y a nécessité d'avoir des petits groupes. Et cette semaine, nous serons en petit groupe de quartier, n'est-ce pas? Pendant toute la semaine, si vous voulez rejoindre un groupe, n'hésitez pas à aller voir Nicolas pour voir quel groupe rejoindre. Mais il y a une nécessité ici. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est en grand groupe, les personnes les plus discrètes restent souvent en retrait. Tandis que les plus extraverties, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre la parole facilement. Mais ça, qui est plus timide là, pas qu'à parler. Or, ils ont beaucoup de choses à dire aussi. Et c'est pourquoi la vraie communion se vit dans les petits groupes. Être enraciné en Christ, c'est apprendre à vivre ensemble. Et il y a au moins trois choses que nous avons à développer. Alors, l'apôtre Paul donne beaucoup de qualités, mais je veux voir juste trois choses avec vous. Et toutes ces trois choses-là, c'est la compassion, c'est l'humilité et c'est le pardon. Et l'apôtre Paul dit que ces trois choses-là, les autres aussi qu'il a nommées, l'expression du lien par excellence qui va lier tout ça, c'est l'amour. Alors, verset 12 à nouveau. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un sentiment de compassion. Paul parle ici d'une qualité qui manque souvent dans nos relations, la compassion. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes souvent pressés, très pressés, pour donner un conseil, pour proposer une solution, pour expliquer à l'autre ce qu'il devrait faire. Avant de coûter, pressez, coûter, pas pressé, pas. Mais quand il s'agit de prendre le temps de vraiment écouter, c'est beaucoup plus difficile. Et combien de personnes ont davantage besoin d'avoir une oreille attentive plutôt qu'un avis supplémentaire sur un problème, sur une difficulté? Ils ont besoin en oreilles pour coûter ça qui est dans leur vie. La compassion, c'est arrêter pour comprendre ce qui est en train de traverser l'autre. S'arrêter, être attentif. C'est dire, je ne vis peut-être pas ce que tu es en train de vivre, mais je veux marcher avec toi. Je veux faire un bout de chemin avec toi. Et vous savez, parfois, la plus grande aide qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est une présence, plutôt qu'une réponse. Alors, parfois, cette manière de voir les choses fait qu'on se sent un petit peu démuni. Mais la présence vaut mieux que de chercher à avoir des réponses. Parce que parfois, on peut passer tout simplement à côté. Et Paul dira ailleurs, portez les fardeaux les uns des autres, dans Galates 6, verset 2. Certains combats sont trop lourds pour être portés seuls. J'ai peut-être une maladie, peut-être un deuil, peut-être une crise familiale, peut-être un découragement spirituel. Et dans ces moments-là, Dieu nous appelle à exprimer la compassion, à soutenir les frères et sœurs. Et j'aimerais dire que les petits groupes sont là pour ça. Les petits groupes sont là pour que chacun se sente encouragé, pour apprendre à écouter, apprendre à prier ensemble, apprendre à partager les joies ensemble, apprendre à partager nos peines aussi ensemble. Être enraciné en Christ, c'est aussi devenir quelqu'un qui porte les autres. Comme d'autres nous ont portés quand nous étions dans la difficulté, dans l'épreuve. La compassion, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à l'exprimer. Et être enraciné en Christ, c'est chercher à exprimer la compassion. Deuxième chose que nous pouvons développer, c'est l'humilité. Et l'humilité, j'ai jamais dit que c'est l'un des plus beaux fruits d'une vie enracinée en Christ. Alors attention, il ne faut pas faire de confusion. Être humble, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas non plus se dévaloriser, ce n'est pas non plus penser que l'on ne vaut rien. Être humble, c'est simplement arrêter de se placer au centre de tout. Arrêter de se placer au centre de tout. J'aimerais dire que l'orgueil nous emmène à penser à moi d'abord, à mon avis, à mes besoins, à mes droits, à tout ce qui est moi. Sans nous rendre compte qu'à force de parler du moi, on est en train de construire des murs autour de nous. Conflits, divisions, blessures, tout ça, ça naît d'un cœur qui refuse de céder la place. Il est temps pour toi de céder la place à quelqu'un. Il est temps pour toi de laisser le Seigneur agir. Il y a des choses qui te tiennent tellement à cœur que finalement tu deviens désagréable. Il est temps pour toi de laisser la place. L'humilité, donc, c'est chercher plutôt qu'à construire des murs, à construire des ponts. Et avec l'humilité, on développe la capacité d'écouter l'autre avant de répondre, de reconnaître ses propres erreurs et d'accepter aussi un conseil sans se sentir attaqué. Une personne qui est humble ne cherche pas à avoir raison. Parce qu'elle est suffisamment en sécurité, en Christ, pour apprendre, pour changer, pour grandir. Une personne humble peut dire « je me suis trompé ». Une personne humble peut dire « pardonne-moi ». Et c'est très important. Jésus lui-même, notre modèle parfait, le roi des rois, s'est abaissé pour servir, n'est-ce pas? Il a connu lui-même l'humilité. Être enraciné en Christ, c'est donc apprendre à laisser la place aux autres. Sans crainte, sans peur. La troisième chose que nous devons développer, c'est le pardon. Allez. C'est les plus grands défis de la vie chrétienne. Parce que vivre ensemble signifie inévitablement qui ou les, qui ou pas les. Soit on va te blesser, ou soit tu vas blesser des personnes. Parce que nous sommes dans cette réalité de cette humanité déchue. Et dans une famille, dans un couple, dans une église, eh bien, il y a des maladresses. Il y a des paroles malheureuses, il y a des déceptions, et parfois même des blessures qui sont profondes. Et nous avons un choix. Soit on va garder ces blessures, soit on va nourrir l'amertume, on va ressasser les choses, ou soit on va choisir le chemin du pardon. Et dans ce passage, encore, l'apôtre Paul nous le rappelle. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. L'enracinement en Christ, il est là, chers frères et sœurs. Il est là. Et voilà, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux avoir des visions, mais si tu ne pardonnes pas, tu ne t'enracines pas en Christ. Vous comprenez? Le pardon ne dit pas que, ce qu'on a subi est acceptable. Ce n'est pas ça l'objet du pardon. Le pardon refuse simplement de laisser la blessure qu'on a subie contrôler notre cœur et dicter notre comportement et notre attitude. Pardonner, c'est remettre l'affaire entre les mains de Dieu, parce que c'est le Seigneur lui-même qui va plaider pour nous, plutôt que de vivre avec un désir de revanche. Et pardonner, j'aimerais le dire aussi, c'est pas, signifie pas non plus refaire confiance tout de suite. Moi, j'aime bien le dire au couple, quand malheureusement on s'est trahi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi, quand on se donne la confiance dans le couple ou encore dans quelle que soit la relation, c'est comme si on se donnait un billet de 100 euros. Et quand malheureusement la confiance elle est trahie, ce billet de 100 euros, ben, tout dépend de la trahison. On a pris 1 euro, on a pris 20 euros, on a pris 50 euros, on a pris 25 euros, on a pris 40 euros dessus et peut-être qu'il ne reste qu'un seul euro aussi. Hein. Et la question, c'est comment on va faire pour qu'à nouveau on retourne à 100 euros, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra donner des gages de confiance. Et j'aimerais le dire ici, pardonner ne signifie pas forcément refaire confiance. Le pardon concerne le passé et la confiance, ça va se construire dans le temps. Elle va se rebâtir dans le temps. Et donc, il faudra donner, comme je dirais, des gages de confiance pour que la relation puisse se rétablir. Mais sans pardon, eh bien, il n'y a aucune relation qui peut tenir bien longtemps. Et lorsque je regarde à la croix, je réalise combien Dieu lui-même m'a pardonné. Lorsque je réalise ce qu'il a fait pour moi, je prends conscience de la grâce que j'ai reçue et je suis à même de pouvoir donner la grâce aux autres. Amen. Et d'une manière, on dit aussi que le pardon ne va pas changer, comment dire, l'autre immédiatement parce qu'on l'a pardonné, il va changer. Ce n'est pas ça le but du pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va libérer la relation et permettre de reconstruire et de repartir sur de nouvelles bases. Et j'aimerais te dire que s'enraciner en Christ concerne ces trois domaines au moins. La compassion que tu es capable d'exprimer, l'humilité que tu es capable d'exprimer et le pardon que tu es capable de donner. S'enraciner en Christ, c'est apprendre à vivre. Amen. Les autres. Et il y a d'autres éléments, vous voyez dans ce même passage, la patience, le pardon. Mais vous voyez que tout est lié dans le lien de la perfection qui est l'amour. Amen. Paul poursuit au verset 16. Et il va dire que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et là encore, Paul combat les fausses idées qui circulent à Colosse. Les faux enseignants qui cherchent à séduire, qui donnent l'impression d'avoir découvert, comme qui dirait, des secrets spirituels que les autres n'ont pas. Ils prétendent apporter quelque chose de plus, quelque chose de supérieur que les autres chrétiens n'ont pas découvert. Et tout cela, eh bien, ils vont le faire en mélangeant avec la parole de Dieu, parce que ce sont des faux apôtres, enfin, en tout cas des faux docteurs. Donc ils vont mélanger ça avec leurs propres idées. Et Paul répond. À nouveau, vous n'avez pas besoin d'un secret supplémentaire. Vous avez besoin d'être attaché à Christ. Restez attaché à Christ. Et je vous assure que c'est bouleversant d'entendre que quelqu'un s'est donné au Seigneur, s'est fait baptiser, mais s'est fait berner par un faux enseignant. Ou en tout cas un enseignant de la parole qui utilise mal la parole, ou en tout cas un enseignant qui utilise la parole pour abuser. Et j'ai vu des personnes qui ont été poussées à une dépendance malsaine envers un responsable spirituel. On leur faisait croire que toute décision importante devait passer par lui. Travail, mariage, déménagement, finances. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que, elle ne voulait plus tant chercher la volonté de Dieu que chercher l'approbation de cette personne-là. Et là encore, on éloigne de Christ plutôt qu'on amène vers Christ. J'ai rencontré aussi des croyants qui avaient fini par penser que leur valeur spirituelle dépendait du montant de leurs dons, ou encore du nombre de jeûnes qu'ils pratiquent, ou du temps qu'ils passaient dans certaines activités spirituelles, sans se rendre compte qu'ils avaient remplacé tout simplement leur relation avec Jésus par une course à la performance spirituelle. Et ces croyants-là se retrouvent épuisés, découragés. Ils avaient perdu leur joie. J'aimerais te dire que Dieu ne nous demande pas d'impressionner les autres par notre spiritualité. Il nous invite simplement à demeurer en Christ, car c'est lui qui produit le fruit dans nos vies. Comme Dieu utilise, comme Dieu fait sortir le fruit du manguier après 10 ans. Amen. Il nous invite simplement à demeurer en Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va insister, comment dire, que cette parole demeure en vous abondamment. Que cette parole demeure en vous abondamment. Une église saine ne rend pas les croyants dépendants d'un homme, mais d'une méthode, ni d'une expérience, mais il les aide à s'enraciner en Jésus-Christ dans sa parole. Parce que dans la parole, c'est là où on trouve la sécurité, c'est là où on trouve la liberté, c'est là où on trouve la croissance spirituelle. Et c'est essentiel. L'apôtre Paul dit clairement que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit, ne dis pas consultez-la quand vous aurez un problème. Hein? Il dit qu'elle habite en vous. Et le mot grec ici, enakeno, signifie littéralement demeurer comme à la maison. Autrement dit, la parole de Dieu ne doit pas être une invitée occasionnelle dans nos vies. Elle doit être chez elle, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos conversations, dans nos choix, dans notre manière de vivre. Et ça a de quoi nous interpeller aujourd'hui où nous vivons dans un monde qui est bombardé par toute parole, des réseaux sociaux, des influenceurs, des médias, des opinions, des idéologies. J'aimerais te dire ici que la question c'est qu'est-ce qui remplit ton cœur? Avec tout ça, quelle parole remplit ton cœur? Parce qu'à la fin, ce qui remplit ton cœur finit par diriger ta vie. Ce qui remplit ton cœur finit par diriger ta vie. Est-ce que vous savez que la Bible complète, donc Ancien et Nouveau Testament, elle est disponible en 795 langues. Je crois qu'il y a peut-être 95 langues maternelles qui ont été 85 langues qui ont été intégrées il n'y a pas longtemps. Ce qui signifie que plus de 6,6 milliards de personnes ont désormais accès à la parole de Dieu dans le monde entier, dans leur langue maternelle. Mais il y a un paradoxe ici. Nous n'avons jamais, comme Dieu, eu autant de Bibles, mais des millions de chrétiens sont malades spirituellement. Des millions de chrétiens meurent de faim spirituellement parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Certains s'effondrent à la moindre épreuve parce qu'ils n'ont pas les promesses bibliques auxquelles ils peuvent s'approcher, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Certains sont emportés par tout, faux enseignements et de fausses doctrines parce qu'ils ne lisent pas la Bible. D'autres encore vivent dans la peur, dans l'inquiétude, dans le découragement, dans la culpabilité, alors que Dieu veut les rassurer, Dieu veut les affermir, mais ils se retrouvent dans ces situations-là parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Tout vrai disciple de Jésus se nourrit de la parole de Dieu. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et on ne peut pas vouloir entendre Dieu parler, mais garder fermée la principale manière par laquelle Dieu a choisi de parler. Sa parole. J'aimerais dire qu'il y a trois dispositions. Trois dispositions à avoir par rapport à la parole de Dieu. Trois dispositions. La première disposition, c'est d'accepter l'autorité de la parole de Dieu. Concrètement, ça signifie que la Bible a le dernier mot sur ma vie. Ce n'est pas la culture, pas les réseaux sociaux, pas les émotions, pas même mes habitudes, mais la Bible. Et c'est laisser la Bible être, comment dire, avoir le contrôle. Par exemple, au travail, tout le monde critique. Alors, ça ne vous arrive pas dans votre travail, hein, bien sûr.
Nous sommes chrétiens.
Vous avez tellement influencé la boîte que personne ne fait ça. Mais tout le monde critique un collègue qui est absent. À croire que c'est parce qu'il est absent qu'on profite de la critique. Et l'ambiance, comment dire, on pose à inviter à participer parce que vous, en tant que chrétien, finalement, vous avez aussi beaucoup de choses à dire. Parce que vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais pourtant, la parole de Dieu nous appelle à ne pas médire et à ne pas utiliser nos paroles, comment dire, pour faire du mal, mais à utiliser nos paroles pour édifier. La Bible dit que, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est valable pour le lieu de travail aussi. Et la question, c'est est-ce qu'il va avoir le dernier mot? Est-ce que c'est la pression au travail ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Et voyez qu'un chrétien qui est sensible et qui se laisse nourrir par la parole de Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit va utiliser ce qu'il a pris le temps d'ingurgiter pour pouvoir avoir la juste et la bonne attitude, quel que soit le lieu où il se trouve. Parce qu'un chrétien enraciné en Christ choisit d'obéir à Dieu, même quand il se sent seul à le faire. Et il ne se demande pas que font les autres, mais il se demande que dit le Seigneur, que veut le Seigneur. Première chose donc, accepter l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. La deuxième, c'est d'accueillir la vérité de la parole. C'est accepter que Dieu mette le doigt sur certains domaines de nos vies. Quand on lit par exemple le passage phare de Philippiens chapitre 4, le verset 6, sur l'inquiétude qui nous invite à prier, qui nous invite à faire des supplications, qui nous invite même à faire des actions de grâce plutôt qu'à se laisser, noyer dans l'inquiétude. Ici, le Saint-Esprit nous montre que parfois nous pouvons passer nos journées dans le souci, alors que la Bible nous montre qu'il y a d'autres activités aussi. Alors bien sûr, quand on reçoit ce message, on peut fermer la parole de Dieu et puis continuer à nous inquiéter. Mais on peut faire le choix aussi de recevoir la vérité de la parole de Dieu et la laisser agir en nous pour que le Seigneur nous permette d'avoir un autre regard sur les préoccupations que nous avons dans ce monde. Accueillir la parole, c'est être assez humble pour reconnaître, Seigneur, tu as raison, je lâche prise, Seigneur. C'est au-dessus de mes forces, au-dessus de mes capacités. Laisser cette vérité pénétrer nos vies et transformer notre comportement. Amen. Troisième chose par rapport à la parole que nous connaissons tous, c'est la mettre en pratique tout simplement. Quand tu reçois, à travers une prédication, quelque chose de l'ordre de l'encouragement, le Seigneur te montre qu'il y a nécessité de nous encourager les uns les autres. Et bien, quand tu as fini d'écouter la prédication, la parole, tu rentres chez toi, tu prends ton téléphone, mais maintenant il y a WhatsApp, n'est-ce pas? Et tu encourages. Tu appliques la parole de Dieu. Vous savez, si après chaque prédication, nous nous mettions à appliquer la parole de Dieu, il y aurait des transformations extraordinaires. Amen. Après avoir lu un texte, n'est-ce pas, cher frère Fernand, sur la générosité, c'était quand? C'était jeudi. Ah, je sais que plusieurs ont fait des dons, hein. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Après avoir médité un texte sur le pardon, est-ce que je vais faire le premier pas pour la réconciliation? La mettre en pratique. On connaît beaucoup de versets, mais la croissance spirituelle commence lorsque cette vérité descend de la tête et passe par le cœur pour aller jusqu'à nos mains et nos pieds. Alléluia! Alléluia! Que Dieu nous aide. Alors toute cette semaine, à travers ce temps de semaine de prière, nous avons voulu déraciner le mal et nous avons voulu nous enraciner davantage en Christ. Et cette image du manguier n'est pas anodine pour moi ce matin. Il y a un temps pour porter du fruit. Mais avant cela, il y a un temps pour pouvoir plonger nos racines. Et chacun des aspects que nous avons vus en ce matin nous rappelle des vérités importantes autour de ces trois questions. Et j'aimerais t'inviter à prendre le temps simplement, peut-être à la lumière de la parole de Dieu, de ce passage de Colossiens chapitre 3, à pouvoir poser ces trois questions. Qui suis-je en Christ? Qui suis-je avec les autres? Et qui suis-je au quotidien? Des questions qui sont simples. Mais je n'aimerais pas que, alors que les années passent, tu ne plonges pas tes racines. Je n'aimerais pas qu'alors que les années passent, tu n'aies que des feuilles et que les fruits ont peine à les voir. Ou en tout cas, que ce soit des fruits qui soient factices et qu'un vent passe et puis il n'y a plus rien. J'aimerais que tu prennes ces années. Peut-être que tu veux aller plus vite. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, je veux voir des choses. Mais j'aimerais te dire que ce que tu as prévu pour toi, personne n'a compris. Et on peut prendre ce verset, comment dire, en créole, c'est pas ce verset, ce proverbe en créole, ça qui tend la lumière à la chair. Mais je le dis avec amour et avec compassion, et puis en même temps, avec une petite expérience de vie où parfois j'ai souffert de ne pas voir et d'attendre le plan de Dieu pour ma vie. Et à d'autres moments, j'ai vu tout s'accélérer. Mais parce que dans les temps où je m'attendais, eh bien, le Seigneur m'a permis de plonger mes racines en lui, dans le jeûne, dans la prière, dans le fait de prier comme qui dirait dans le vide. Et le Seigneur est venu et il se posait sur moi à chaque fois. Parfois aussi, c'était comme il y avait comme des colères en moi. Et je dis, mais Seigneur, il n'y a pas de lien entre ce que je crois avoir reçu de toi et ce que je vois. Et je criais au Seigneur. Mais le Seigneur voulait que j'apprenne à dépendre de lui, c'est-à-dire à plonger davantage mes racines. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur a prévu pour toi. 6 à 10 ans pour le manguier, combien de temps pour toi? Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur veut, comment dire, construire, avant de faire du fruit durable avec toi, du fruit durable à travers le temps. Parce qu'il ne s'agit pas de porter simplement la première année. Mais il s'agit de persévérer jusqu'au bout. Quel rêve, quel projet, quelle attente, quelle espérance, quelle pression que tu as sur toi ces jours-ci. Qu'est-ce qui est en train de bouillir en toi ici? Le Seigneur t'invite à répondre à ces 3 questions. Et il te donne les orientations pour répondre à ces 3 questions. Qui suis-je en Christ? Il t'appelle à retrouver ton identité en lui. Là où il y a comme l'inquiétude, le doute et toutes les questions, il te dit que tu es en sécurité en lui. Là où tu te sens comme qu'il est mis de côté ou je ne sais quoi, et puis tu es toujours en demi-tête, au lieu d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de laisser le Seigneur travailler en toi, étape par étape, le Seigneur te dit tu es accepté, alors vas-y, tu es libre. Là où peut-être tu as reçu une éducation où on n'a pas su mettre ta valeur, on n'a pas su, ou bien on a mis ta valeur, mais en même temps, on t'a fait des reproches, on t'a fait des critiques qui ne t'ont pas aidé à te construire. Oh! Tout ça, il s'agit de ton passé. Maintenant, tu es en mesure de plonger tes racines en Christ. Et de comprendre que tu as toute ta valeur en Christ. Non pas par ce que tu fais, mais ce que Christ appelle pour toi à la gloire. Qui suis-je avec les autres? Quelle que soit ta personnalité, tu es capable d'exprimer toutes les qualités, tous les sentiments qui sont dans Jésus-Christ. Et tu es capable de les exprimer quel que soit l'endroit où tu vas. Alléluia. Et je peux t'assurer que si tu plonges tes racines en lui, quel que soit l'endroit où tu vas, on verra que tu es passé. Alléluia. Parce que tu vas exprimer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons parlé de compassion, nous avons parlé d'humilité, nous avons parlé de pardon. Tout cela, tu es capable de libérer tout cela en Christ. Le Seigneur vient, il change ta mentalité afin que tu libères toutes ces réalités. Amen. Et tu es capable de construire des relations solides. Là où peut-être on ne t'a pas donné, là où peut-être on t'a mis de côté, tu es en mesure de le faire, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans toutes les réalités de ta vie, même professionnelle. Il y a quelqu'un ici qui craint pour sa vie professionnelle, qui craint de savoir s'il va trouver un autre travail. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, voire même des dépressions, voire même peut-être un burn-out. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as tout pour réussir, et quel que soit l'âge que tu as. Alléluia! Et le Seigneur te dit, qui suis-je au quotidien? Il te demande. Cette parole a besoin d'habiter en toi. Cette parole a besoin de demeurer en toi. Tu as besoin de vivre quel que soit le lieu où tu es. Et la parole elle dit bien, par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Alléluia. Tout ce que nous faisons ici dans le culte, nous pouvons aussi, comment dire, l'exprimer de toutes les manières possibles. Et tout ça, c'est utile pour pouvoir les retenir la parole de Dieu. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est l'apôtre Paul qui écrit, mais il y a un texte parallèle qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 5. Et dans le texte colossien, chapitre 3, il est dit que cette parole habite abondamment. Et dans Éphésiens 5, qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous enivrez pas de... Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et juste après, l'apôtre Paul dira la même chose. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels. La parole et l'esprit. Qui suis-je au quotidien? Quelle est la place de la parole et de l'esprit? Qui suis-je au quotidien? Si nous prenons cette parole, c'est que nous savons que l'esprit est dans cette parole. Et que si nous la saisissons à l'intérieur de nous, elle est capable de nous changer, de nous transformer. Pour retrouver notre identité en lui, pour pardonner à quelqu'un, pour faire preuve de compassion, pour grandir dans l'humilité, pour restaurer une relation. Alors la question que j'ai envie de te poser ce matin, quelle prochaine étape Dieu te demande de franchir? Ne repars pas comme tu es venu ce matin. Ne repars pas simplement avec un message de plus. Le Seigneur te dit, continue à pousser vers le bas. Continue à pousser et à continuer. Peut-être que tu ne vois pas encore de l'extérieur, tu ne vois pas encore ce à quoi tu t'attends. Mais le Seigneur te dit, continue à pousser vers le bas. Là où peut-être tu sens que tu ne maîtrises rien. Mais le Seigneur est en train de travailler en toi. Alléluia. Une vie enracinée, qui résiste aux tempêtes, qui grandit avec le temps et qui porte un fruit qui va demeurer pour l'éternité. Alors, tu fais comme tu le sens ce matin. Tu peux soit lever la main, tu peux soit te lever. Tu peux soit prendre une décision dans ton cœur, mais j'aimerais juste prier avec toi ce matin. Quelle est la prochaine étape que Dieu te demande de franchir? Quelle est-elle? J'aimerais prier avec toi. Et je sais que le Saint-Esprit te la révèle même. Il te la révèle non pas pour qu'il y ait comme un poids sur ton cœur, mais il te la révèle parce que son doux est léger, n'est-ce pas? Et il te donne cette liberté, la liberté de l'esprit. Alléluia. Pour dire maintenant, c'est possible. Ne repars pas comme tu es venu ce matin. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que dans ton amour et dans ta grâce, tu t'approches de nous avec tellement de bonté, tellement d'amour, tellement de tendresse. Et si tu es capable de pointer du doigt, comme on le voit dans le début de ce chapitre, tous nos péchés, l'incrédulité, l'impudicité, le mensonge, si tu es capable de nous le montrer, tu es aussi capable de nous dire. Revêt l'homme nouveau en Christ. Cela est possible pour toi. Reconnais ton péché et maintenant tu peux venir vers moi. Merci Seigneur pour cela. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour toujours le chemin nouveau que tu ouvres devant nous. Et je veux te prier pour quelqu'un ici, pour un frère, pour une sœur, pour un jeune qui se pose toutes sortes de questions sur la vie. Peut-être voilà. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et tu lui révèles que tout simplement, c'est toi qui l'as créé. Et tu es capable de lui dire quelle orientation prendre dans sa vie. Parce que tu as déjà tout donné. Alléluia. Alors merci Seigneur pour ça. Merci pour ces orientations nouvelles que tu donnes. Merci pour ce chemin nouveau que tu ouvres. Et nous voulons pas passer à côté de ça. Merci Seigneur. Merci pour un frère, pour une sœur qui prend une décision ce matin. Et je sais que tu sauras, tu sauras aller jusqu'au bout. Parce que tu n'abandonnes personne, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de démarrer. Peut-être est-ce une graine qui est plantée aujourd'hui. Peut-être est-ce un arbre qui s'est laissé, environné par toutes sortes d'inquiétudes, mais qui aujourd'hui choisit de ne point s'embêter, mais juste de faire plonger ses racines. Alléluia. Qu'importe ce qui te passe à l'extérieur. Il y a le vent, il y a la pluie, il y a les tempêtes, il y a les éclairs. Mais là, quel que soit le temps, choisis de plonger ses racines. Et le jour viendra pour les femmes. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que pendant tout ce temps, ce n'est pas quand le fruit vient que nous avons notre valeur en Christ. La valeur, elle est déjà là parce qu'elle a été décrétée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et qu'un cœur, ce matin, un cœur découragé, trouve un soutien, trouve un encouragement, trouve une parole, trouve un renouvellement ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as commencé. Et nous savons que tu seras fidèle pour l'accomplir en Jésus-Christ. Louange et gloire te soient, au nom de Jésus.